à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. C'est une émission où on couvre toute l'actu du jeu vidéo. On parle des jeux, bien sûr, surtout en cette période extrêmement active de fin d'année et d'automne. Et on parle aussi de l'actualité de l'industrie qui est assez variée, assez diverse aujourd'hui. On va parler de PlayStation 5, de streaming, de Destiny 2, de Untitled Goose Game et de plein d'autres choses de ce type-là. Et bien sûr, on ne peut pas éviter la grande controverse qui nous occupe tous et toutes depuis des jours maintenant, le conflit, les discussions qui ont lieu autour de Hearthstone et de la relation de Blizzard avec la Chine. On va expliquer tout ça. Je commence par me présenter, je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui deux personnes qui sont là pour la première fois dans l'émission. On va commencer avec Eva, Eva Martinello. Bonjour et bienvenue dans l'épisode.
Merci.
On va aussi présenter Claire Léger qui est là également. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors avant de commencer à parler des sujets sérieux, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots, que vous vous présentiez pour que les auditeurs sachent un petit peu d'où vous venez. Eva, on va commencer par toi peut-être. Qui es-tu ?
Donc moi je suis pigiste pour Gameblog notamment et Dot eSport en anglais et donc je me spécialise dans les jeux vidéo et plus en particulier l'eSport et les jeux compétitifs et les FPS.
D'accord, super, merci Eva. Et Claire, que fais-tu toi ?
Alors moi je suis producteur, je travaille depuis une bonne quinzaine d'années maintenant dans le formidable univers du jeu vidéo français. Donc, je suis actuellement chez Spiders Games à Paris. On vient de sortir Gridfall. Et auparavant, avant de poser mes bagages chez Gridfall, j'ai été en freelance pendant 7 ans où j'accompagnais des petits studios. Donc, moi, mon côté, c'est la production. Et parallèlement à ça, voilà, je joue sur PS4, PC et Switch.
Ah, c'est bien. Les essentiels. Magnifique. Parfait. Eh bien, écoutez, je ne vais pas retarder plus longtemps la discussion qui va être la discussion, je pense, principale. C'est marrant parce que quand j'ai contacté Eva et Claire un petit peu avant ça, mais je vous ai contacté, je me disais, bah, on va parler de Destiny, on va parler de PlayStation, on va parler... Je ne pensais pas qu'on allait parler de géopolitique, de Hong Kong, de conflits internationaux entre des grandes sociétés, des pays et les implications avec les discussions sur les échanges internationaux, enfin, toutes ces choses-là. C'est des sujets que j'ai pris l'habitude d'aborder dans le Rendez-vous Tech, l'autre émission que je fais, parce que bah, ça s'insère un petit peu partout. Dans le rendez-vous jeu, c'est un petit peu moins le cas. On a souvent des discussions controversées sur des sujets très jeux vidéo. Et là, bah, ça nous amène également dans ces domaines-là. Bon, c'est un truc que je ne pensais pas faire, mais qui est important de traiter. Et donc, on va évidemment le traiter avec autant de sérieux et d'objectivité que possible. Je vais peut-être commencer par dire... essayer de rappeler les faits pour ceux qui n'ont pas suivi toute cette histoire. Et puis après, on en discutera de notre point de vue personnel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques jours, l'un des joueurs des Grandmasters de Hearthstone, donc l'un des tournois de Hearthstone, le tournoi qui s'étend sur toute l'année, un des joueurs de la région Asie-Pacifique qui s'appelle Cheng Wei Ning, prononce un petit peu à la louche, dont le pseudo est Blitzchung, a donc gagné le Grandmaster Asie-Pacifique. Et lors de son interview de gagnant, il est apparu avec un masque à gaz et des lunettes de ski qui sont le symbole et qui sont utilisés par les gens qui se... qui se rebelle contre l'emprise de la Chine à Hong Kong. Vous savez qu'il y a des événements à Hong Kong depuis des mois maintenant pour essayer de repousser les restrictions que veut imposer la Chine à la région de Hong Kong. Et ils utilisent notamment le masque à gaz et les lunettes de ski pour se protéger contre les forces de police envoyées par la Chine. Donc, il est apparu dans cette interview avec cet attirail. Il a dit des slogans contre le gouvernement chinois, ou plutôt pour l'indépendance et la révolution, entre guillemets, à Hong Kong. Il a repris à son compte les slogans de ces... c'est plus que des manifestants à ce stade. Et il faut bien sûr préciser que lui est d'origine de Hong Kong, donc c'est un sujet qui, évidemment, lui tient beaucoup à cœur. Les deux casteurs qui faisaient l'interview ont, on va dire, participé, ils rigolaient un petit peu, ils l'ont encouragé, il semble. Alors, c'était en chinois, on a vu des traductions, mais il semble qu'il l'ait encouragé. Et dans le contexte des relations très très tendues entre la Chine et Hong Kong, ça a été problématique pour tous ceux qui sont impliqués dans l'histoire. Et donc Blizzard a pris la décision de non seulement renvoyer les deux casters, mais en plus de bannir pour un an Blitzchung des tournois de Hearthstone et de lui retirer les prix qu'il avait gagnés dans cette saison, qui se montent à environ 10 000 dollars. Ce qui sont des... Bon, je ne vais pas faire de jugement de valeur à ce stade. Voilà ce qui s'est passé. C'est très... c'est vraiment les faits tels qu'ils se sont produits. Suite à ça, il y a eu un mouvement assez intense qui s'est développé. Là, on parle d'événements qui se sont produits il y a 2 jours. Hein, donc, ça s'est développé très, très vite. On a un exemple parfait du Streisand Effect qui met la lumière sur un événement qui aurait eu beaucoup moins d'importance si les personnes impliquées n'avaient pas pris des décisions pour essayer de le faire disparaître, on va dire. Et la communauté, je ne sais pas si c'est une grande partie, mais une partie de la communauté des joueurs Blizzard a été révolté par ces actions, cette décision de Blizzard qui semble particulièrement dure. Et il y a des appels au boycott. J'ai vu de nombreux exemples de joueurs qui décidaient de supprimer leur compte. J'imagine que c'est comme toujours une petite partie qui est très visible et très audible, mais il n'empêche, c'est un truc qu'il est difficile de ne pas voir. C'est dans le contexte d'événements internationaux beaucoup plus important encore. On sait qu'il y a le conflit, évidemment, entre la Chine et Hong Kong qui dure depuis des mois, qui est les tenants de la chose sont l'autorité de Hong Kong sur des régions, pardon, l'autorité de la Chine sur des régions et des zones comme Hong Kong ou d'autres zones de la région qui sont en jeu, puisque Hong Kong fait un petit peu figure d'exemple aujourd'hui. Il y a l'anniversaire du Parti communiste en Chine, je vous disais, hein, c'est une question de géopolitique et des questions compliquées, je ne suis pas un expert, donc je fais de mon mieux, hein, j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises, mais l'anniversaire du Parti communiste qui arrive, les 70 ans, qui arrive bientôt, donc Xi Jinping, qui veut mettre l'image la plus forte de son pays en avant. Il y a la guerre commerciale entre les US et la Chine qui bat son plein, et on peut imaginer que ces événements font figure de coup de semonce pour la Chine également, pour montrer qu'ils bandent leurs muscles, on va dire. Il y a eu d'autres événements de ce type avec la NBA, dont un des joueurs a fait des commentaires en soutien aux manifestants à Hong Kong, et la NBA l'a d'abord désavoué puis soutenu, et ça a des conséquences importantes sur la NBA, même si la NBA a un business en Chine qui existe mais qui est peut-être un petit peu moins important que d'autres. Quoi d'autre ? Il y a Apple d'ailleurs qui a d'abord refusé d'approuver, puis approuvé, puis maintenant retiré suite à tes commentaires de la Chine une application qui aide les manifestants à éviter la police. La Chine a dit que cette application, comme toujours hein, dans ce genre de situation, l'application permet aux criminels de faire des exactions criminelles, donc d'éviter la police et d'aller attaquer les braves gens quand la police n'y est pas. Enfin bon, on se doute bien de ce que ça veut dire en réalité. Et donc Apple a fini aujourd'hui par retirer l'application. Donc c'est un contexte qui est évidemment beaucoup plus vaste que simplement Blizzard et un joueur de Hearthstone. Et ce contexte est important pour comprendre tout ce qui se passe. Voilà pour un résumé un petit peu rapide de ce qui s'est des faits. Eva, je sais que tu as suivi un petit peu la chose. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est une question difficile, mais qu'est-ce que tu en penses?
C'est une question assez vaste, hein, forcément. Mais là, je comprends la volonté forcément de Blizzard de prendre cette décision parce que c'est pas seulement lié au fait de juste exprimer une opinion politique dans une compétition où t'es pas censé avoir ce genre de propos, mais ce qui a fait que la sanction était aussi sévère, on sait tous que c'était parce que ça concernait le conflit Hong Kong-Chine et que Blizzard a 5% qui appartient, de ses parts qui appartient à Tencent, donc le géant chinois, et qui a 12% je crois de ses bénéfices qui viennent du marché chinois. Donc forcément, il y a des gros intérêts économiques en jeu vis-à-vis de ça.
Ouais, le chiffre des 12 ou 13%, moi j'ai trouvé ça, c'est difficile hein, de savoir combien vient de la Chine, j'ai trouvé des chiffres sur les revenus de 2018 qui sembleraient laisser penser que 13% je crois viennent de la région Asie-Pacifique, on se doute qu'une partie de ces 13% viennent de la Chine, mais je ne sais pas si c'est des chiffres exacts, il y a des gens qui m'ont dit non c'est pas tout à fait ça, c'est compté d'une manière différente, mais moi, c'est la base sur laquelle je pars aujourd'hui. Mais oui, donc il y a des enjeux économiques. J'imagine aussi qu'il y a des gens en Chine, peut-être en passant par Tencent, 5%, ce n'est pas non plus une majorité des parts, c'est 5% d'Activision.
Ouais, Blizzard, Activision mais aussi, oui.
Oui, c'est ça. Mais on peut tout à fait imaginer, moi j'imagine que c'est ce qui s'est passé, quelqu'un en Chine a décroché son téléphone et a dit « Non, là ça ne va pas, vous devez faire un exemple, quoi.
» Oui, c'est ça.
Ça ne me surprendrait pas, oui.
Bah c'est ça qui fait qu'il y a autant de bruit autour, c'est la sévérité et la sanction qui montrent que oui, vraiment, ils ont voulu faire un exemple de ce joueur en mode personne ne doit vexer la Chine, quoi. Et d'ailleurs, Blizzard a fait une lettre d'excuses, c'est la seule chose qu'ils ont fait en dehors de leur déclaration de sanction, mais à la communauté chinoise. Donc leur excuse, c'était on respecte la fierté de votre pays, etc. Et je pense que c'était pas forcément la meilleure chose à faire parce qu'effectivement, en fait, ça a ramené en lumière tout le conflit Hong Kong-Chine. Maintenant, tous les gamers connaissent parfaitement, j'ai l'impression, le conflit. Ouais. Donc, ça a beaucoup sensibilisé là-dessus. Et en plus, le silence qui a suivi la sanction complètement démesurée, ça fait que forcément, pour moi, ceux qui veulent censurer les gamers, je pense que c'est la pire décision à faire parce que forcément, ils vont vouloir troller et se faire entendre de toutes les façons possibles. Mmh. Donc, en plus des boycotts, il y a de plus en plus d'actions qui sont en cours. Et je pense que si Blizzard continue à garder le silence, vu que la BlizzCon arrive seulement dans 2 ou 3 semaines, enfin début novembre, c'est possible que ça s'envenime jusqu'à leur événement de l'année qui est le plus important pour eux et qu'il y ait des contestations sur place là-bas, plus sur les streams où je pense qu'ils devront avoir une armée de modérateurs pour essayer
d'enrayer le
ouais, voilà, c'est ça.
Ah, c'est sûr que là, le mouvement est carrément impossible à enrayer. Moi, je pense comme toi qu'ils vont devoir dire quelque chose. Le message dont tu parlais, le mot d'excuse, c'était un message qui a été envoyé sur Sina Weibo, le Twitter chinois, le Twitter en Chine, et c'était un message qui était là aussi extrêmement ferme, mais dans le sens du gouvernement chinois. C'était effectivement, je paraphrase, mais nous sommes horrifiés de ce qui s'est passé, nous respectons la fierté de la nation chinoise, et nous sommes, enfin c'était presque, nous sommes dégoûtés de ce qui s'est passé, désolé quoi.
C'est ça.
Et donc, oui, ça a été immédiatement traduit, et ça n'aide pas. Ils se sont mis dans une situation qui, à mon avis, était compliqué à ne pas créer. Mais là, la situation, j'ai du mal à voir comment ils vont s'en sortir. J'imagine qu'ils vont devoir dire quelque chose. Peut-être même que quand vous écouterez cette émission, il y aura un message qui aura été publié ou quelque chose. Parce que tu as raison. Là, avec la BlizzCon et le bad buzz qu'ils ont eu à répétition depuis la dernière BlizzCon entre Diablo Immortal, licenciements qu'il y a eu en début d'année.
Tant que journaliste, maintenant, on sait que chaque année, ceux qui vont faire les plus gros bad buzz, ça va toujours être bizarre.
C'est ça. Voilà. Là, on a. Et je pense que la BlizzCon, c'était l'occasion de redresser la barre avec des grosses annonces. Je pense qu'il y en aura. Mais là, ça va être complètement, je pense, difficile. Je ne vois pas comment ils pourraient empêcher que ça soit envahi par qu'est-ce qui se passe avec la Chine. Donc, Claire, est-ce que tu as un avis sur la chose ?
Alors, il y a des choses où je suis complètement d'accord avec ce que disait Eva sur le positionnement économique en fait de Blizzard. C'est évidemment très difficile. C'est un marché important, la Chine, pour tous les éditeurs maintenant. Donc, c'est normal qu'ils ne souhaitent pas afficher une opinion personnelle. Après. Là, pour moi, c'est compliqué et où j'ai du mal à me faire une opinion, c'est que pour moi, le jeu vidéo, c'est une sorte de média. Et du coup, bah, dans un média, on doit pouvoir aussi dire ce qu'on pense. Après, le fait que ce soit dans le cadre d'un événement organisé par Blizzard, ça pose les choses un peu différemment de si c'était juste un streamer sur Twitch, même un streamer populaire sur Twitch qui dirait quelque chose. De politiquement engagé. Du coup, en fait, pour moi, mon opinion personnelle, c'est que je trouve que le streamer a eu raison de donner son avis si c'est quelque chose qui lui tient à cœur, parce que c'est aussi le rôle d'un média. Par contre, le lieu est discutable et en plus, effectivement, il y a toutes les polémiques qui sont liées aux règles que les participants s'engagent à respecter. Qui fait qu'a priori, alors personnellement, j'ai pas lu le détail des règles.
Je vais te dire, c'est très simple. En gros, c'est dans le règlement, effectivement, des tournois. Blizzard se réserve le droit, et j'imagine que c'est la même chose pour tous les tournois qui sont organisés par des grandes sociétés. Blizzard se réserve le droit de punir ou de supprimer d'annuler la participation des joueurs. En gros, pour quelque raison que ce soit, ils disent il ne faut pas heurter l'image de Blizzard ou du jeu ou d'afficher d'opinion politique. Et en même temps, ils disent vous pouvez vous exprimer. Et quelques articles plus loin, c'est genre mais faut rien dire de mal. En gros, c'est un moyen de dire on a pris une décision, mais c'était dans les règles. Ce qui est d'une certaine manière compréhensible, parce que je pense pas qu'ils veuillent que tout leur tournoi se transforme en à chaque fois il y a quelqu'un qui arrive en disant pro-Trump, ouais super Trump, il faut faire ça, ou je sais pas, dans le cadre de la France, un anti-Macron ou un pro-Macron ou je sais pas, c'est ils veulent pas que ça se transforme en cirque politique. Et Dieu sait qu'il y aurait des occasions. Mais en même temps, dans le cadre de ce conflit précis, ça prend une autre tournure. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui venait pour encourager Trump ou dénoncer Trump et que Blizzard avait dit non, désolé, ça, on n'accepte pas, je pense qu'on aurait plus compris que dans le cadre de ce conflit-là où il y a un contexte qui est beaucoup plus complexe, justement.
Et surtout qu'il y ait un conflit qui touche aux droits de l'homme, en fait, directement. C'est pas
tout à fait, ouais.
Que de la politique.
Oui, complètement. Et là, je pense qu'on arrive à un élément du problème essentiel qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la situation de la Chine, qui est, au-delà du conflit qui les oppose à Hong Kong, un pays qui est, sans se mentir, un pays qui est une, on va dire, j'allais dire semi-dictature communiste, mais qui va de plus en plus vers la 100% dictature. Ces dernières années, il y a eu, sur les quelques dernières décennies, une progression économique en Chine qui pouvait laisser espérer qu'on irait vers plus de liberté. Et je pense qu'au niveau économique, ça s'est produit. Mais depuis quelques années, ça ne fait pas très longtemps, on va dire 4-5 ans, il y a une restriction des libertés individuelles. C'est reparti dans l'autre sens et ça devient de plus en plus préoccupant. Donc ce contexte, effectivement, change aussi les choses. Claire, je t'ai interrompu, oui, donc vas-y, continue.
Je vais dire, en l'occurrence, il y a l'histoire de Hong Kong aussi qu'il faut prendre en compte, puisque, je ne connais pas exactement les dates, mais je dirais que ils ont perdu leur espèce de protectorat qu'ils avaient avant. Il y a quoi ? Il y a moins de 10 ans.
Ça fait un peu plus, c'était pas 97 ?
Je ne sais pas.
Je vais pas donner de date, mais oui, c'était une région, on va dire, anglaise, et puis ils ont
autonomes, en fait. Ouais. Ils ont changé de tutelle, entre guillemets. C'est un peu ça ce qui se passe. Après, je trouve ça très difficile que, finalement, le jeu vidéo, qui est normalement un divertissement, se mette au milieu de ça. Je trouve que ça, c'est pas très facile comme position. Il y a des intérêts économiques et évidemment, il y a les droits de l'homme qui se mettent aussi un peu au milieu, c'est-à-dire, et la liberté de parole, comment ça se fait que n'importe qui puisse pas donner son avis, même si c'est public. De l'autre côté, il y a et la liberté des gens qui sont à Hong Kong, mais là, on est complètement sur un autre sujet, en fait. Ça n'a plus rien à voir avec Warstone, quoi.
Ouais, vas-y, finis, pardon.
Est-ce que la médiatisation sur ce sujet-là sert ou dessert le propos, finalement ? Enfin, je crois qu'il y a aussi à mettre ça dans la balance à un moment. Mmh. Et pour l'instant, en fait, c'est très récent. De jour, c'est très récent. Les réseaux sociaux montent en épingle facilement. C'est difficile aussi de savoir quelle est la proportion de trollers ou de haters qui postent des commentaires versus l'opinion réelle des gens.
J'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie révolte qui est plus, je veux pas dire plus sincère, parce que quand les gamers s'énervent, ils sont toujours sincères, c'est juste qu'ils sont aussi en train de troller. Là, j'ai l'impression qu'il y a une vraie préoccupation authentique de la question, sur la question des droits de l'homme, comme tu le soulignes. Il y a une vraie préoccupation là-dessus qui est différente des scandales ou des controverses qu'on peut avoir dans l'univers du jeu vidéo en général. Là, il y a quelque chose d'un petit peu plus, je crois, sincère. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma perception.
C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de être contre Blizzard, qui est un peu devenu une habitude aussi. Donc ça devient un peu un prétexte aussi pour être contre Blizzard. Mais je pense aussi que ça a sensibilisé beaucoup de monde. Et je trouve ça assez fou, en fait, de voir toutes les actions qu'il y a, et notamment des actions de soutien vers les casters. Par exemple, il y a un jeu qui s'est proposé pour rembourser tout le cash prize qu'a perdu le joueur banni. Enfin, il y a plein d'actions réelles,
coup,
en fait,
ça,
qui sont
même,
mises
mais...
en
place. Ouais,
oui, c'est un peu la récupération en même temps. Mmh. Mais...
C'est un peu...
Epic Games qui en a fait aussi, ce qui est assez drôle quand on sait qu'Epic Games aussi est lié à la Chine. Mais...
Ça, c'est intéressant. C'est Tim Sweeney qui a fait une déclaration... qui est, effectivement, je crois que c'est Tencent qui possède 40% de Epic Games. Et je crois que c'est Tencent, oui, je ne me trompe pas. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ce qu'il a dit, c'est « moi à la tête, jamais ». C'est-à-dire que si on me demande de faire ça, je ne le ferai pas. Et je trouve ça hyper intelligent. Tim Sweeney est quelqu'un de particulièrement habile au niveau business, et je pense que au début je me suis dit ouais, c'est un petit peu de la récupération aussi. Je suis pas sûr, moi j'ai l'impression que c'est un coup de semonce envers Tencent et envers le gouvernement chinois pour dire si vous me demandez un truc comme ça, moi je démissionnerai, de manière à ce qu'ils n'osent pas le demander, en quelque sorte. Peut-être qu'ils le feront quand même, mais le fait de préempter une demande de ce type, c'est genre, oui, on est peut-être tenu à 40%, et c'est pas la majorité, mais on est peut-être tenu à 40% par Tencent, mais vous avisez pas de le demander parce que ça ne passera pas avec moi. Ce qui pourrait permettre d'enrayer la chose avant même que ça se produise. Il y a eu plein de choses qui sont passées. Il y a, en plus des joueurs qui appellent à un boycott et qui suppriment leur compte, il y a des joueurs de Hearthstone d'une équipe de collège, je crois, d'université, qui ont affiché leur soutien. Il y a un caster officiel de Hearthstone qui a dit qu'il démissionnerait, à moins que quelque chose change. Il a dit qu'il démissionnait, Brian Kibler. Il y a un mouvement assez intéressant de soutien à Hong Kong qui ont coopté Mei, le héros chinois de Overwatch, pour en faire un symbole de la révolution, entre guillemets, de Hong Kong contre la Chine, ce qui met, bien sûr, Overwatch dans une position compliquée, parce que si ça en fait un symbole, si le personnage devient un symbole, qu'est-ce qui se passe? Ils vont supprimer Mei du jeu en Chine, ou c'est compliqué à gérer, mais c'est très malin. Oui, Claire ?
Peut-être qu'ils vont le reskiner, ils vont peut-être demander pour le territoire que ce soit reskiné. Je veux dire, ce ne serait pas la première fois que...
C'est vrai qu'il y a des règles.
La Chine demande à changer pour leur territoire, pour que les jeux soient autorisés sur leur territoire, des contenus à l'intérieur des jeux, quoi.
Ouais. Bon, il y a effectivement, c'est très fréquent. Je me souviens de... Je crois que c'était PUBG Mobile ou un truc comme ça qui a été... renommé le jeu
Game
du patriotisme.
For peace, oui.
Game for Peace, voilà. Game for Peace.
Où tout change, et quand tu tues, entre guillemets, des personnes, ils te font juste un geste en disant au revoir. Et du coup, personne ne meurt. Donc c'est intéressant.
tout ça pour... Je vais en venir à mon opinion sur la chose. Je voudrais préfacer ça. Ça fait presque une demi-heure qu'on parle de ça, donc on va conclure. Je voudrais préfacer mon opinion par quelques mentions. D'abord, je pense que la plupart des auditeurs le savent, mais j'ai travaillé pour Blizzard pendant 5 ans. J'étais très fan. J'ai commencé ma carrière de podcasteur avec un podcast sur World of Warcraft. J'ai travaillé pour eux. Je suis très fan de tous leurs jeux. Donc, ça, gardez ça à l'esprit quand je dis ce que je dis. Moi, je pense que je suis... j'essaye d'être neutre et objectif dans toutes mes analyses, que ce soit dans le rendez-vous jeu ou dans le rendez-vous tech ou dans le Phileas Club, par exemple. J'essaye toujours de prendre les faits d'un problème et d'essayer d'aller au cœur des choses avant d'émettre un jugement. Quand je parlais de la question du lancement de la Xbox One, par exemple, le mouvement, je me méfie des mouvements de foule, en particulier dans l'univers des gamers. J'ai tendance à pas prendre le contre-pied, mais à m'en méfier. Et par exemple, quand je parlais de la Xbox One, il y avait un mouvement très fort contre. Et pour moi, le problème de la Xbox One, c'était la manière dont ça a été présenté, mais l'idée de base qui a été très mal présentée, de dire les jeux numériques, il faut qu'on puisse les échanger et les vendre, c'était une bonne idée de nous donner la propriété sur notre jeu numérique, et ça a été complètement noyé dans l'annonce mal foutue et dans le mouvement des gamers, et on voit aujourd'hui que cette question revient au goût du jour et que le mouvement n'est plus forcément dans le même sens avec la décision du tribunal européen sur la revente de jeux. Il y a plein de sujets comme ça. Le Gamergate, par exemple, je ne suis pas juste allé voir quelques tweets ignobles sur Twitter. Je suis allé regarder ce qu'il y avait vraiment derrière. Et bon, il se trouve qu'au final, sur le cas du Gamergate, j'étais effectivement un petit peu horrifié de ce qui s'est passé. Mais je vais voir derrière. L'émission dont je parlais, The Phileas Club, c'est une émission, quand je veux parler de ce qui se passe aux États-Unis, je vais parler à des gens qui soutiennent Trump. J'essaye de comprendre pourquoi ils prennent ces décisions qui sont incompréhensibles pour moi. J'ai fait une émission, là, il y a 7 semaines, il y a 2 jours, où j'ai mis dans la même émission un Anglais, un Écossais et un Irlandais, et on parlait du Brexit. Et il y en avait un d'entre eux qui était pro-Brexit. Je vais pas rester enfermé dans dans ma propre bulle. Je vais vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est ce que je fais aussi dans le milieu généralement un peu plus léger du jeu vidéo. Quand on parle de lootbox, quand on parle de l'Epic Game Store, j'essaye vraiment d'aller au bout des choses. Bref, tout ça pour dire que j'essaye... Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec mes opinions, je parle à mes chers auditeurs, mais j'essaye vraiment de comprendre le contexte et d'analyser les choses froidement. Là, je pense que mon avis est un petit peu coloré par l'amour que j'ai des jeux de Blizzard. Je pense vraiment pas être un fanboy de quoi que ce soit. Je suis un fan de plein de choses, mais fanboy, c'est un truc qui est à l'opposé de ce que je ressens, parce que je vais pas défendre une marque ou une société par principe. Si je jouais plutôt sur Xbox à une époque, je joue plutôt sur PlayStation maintenant. Blizzard, j'adore leur jeu, j'adore la boîte parce que j'adore leur jeu, pas parce que j'adore la boîte, je m'en fous. C'est complètement séparé de l'amour que j'ai du travail qu'ils font. Et il y a quand même un passif qui est positif envers Blizzard. Je parlais du Gamergate tout à l'heure. À une époque, quand je travaillais chez Blizzard, j'avais quelques semaines avant mon départ, c'était en 2014, au mois d'octobre, j'avais envoyé un mail à Mike Morhaime directement. C'est un truc que je ne faisais pas souvent, bien sûr, j'ai dû le faire une fois dans ma vie, en lui disant « Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait parler du Gamergate ou en tout cas évoquer ces problèmes lors de la BlizzCon ?» Ça serait une super occasion de montrer le soutien, de défendre les idées, de condamner d'une certaine manière le Gamergate. Et il m'avait dit « Non, on préfère laisser nos jeux parler, etc. » Il m'avait répondu personnellement, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et il s'est trouvé qu'au final, il avait dit quelques mots lors de la BlizzCon, ce qui m'avait fait exulter. J'étais hyper content de voir que la société que j'aime s'était alignée sur ce type d'idées, ce qui est forcément un petit peu politique. On peut difficilement ne pas faire de politique. Même quand on n'en fait pas, c'est un peu un acte politique. Mais c'est différent, je crois, quand on parle de ces sujets de société et de sujets de géopolitique générale. Mais au-delà de ça, la société a montré, je crois, avec ces jeux où il y a l'inclusivité, la parité, en particulier avec Overwatch, qui sont exemplifiés dans le jeu, dans les actions, plus que dans les paroles, ils ont une visibilité des minorités dans leur boîte, en particulier LGBTQ, qui est plus forte, je crois, que dans de nombreuses autres grandes sociétés. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai, même si c'est une société et qu'il faut garder les choses séparées, il y a effectivement quelques exemples qui sont, par le passé, quelques exemples qui m'ont encouragé dans mon appréciation de la boîte. Ça a peut-être un petit peu changé ces derniers temps, mais je garde une certaine confiance et je me disais, cette année, avec la BlizzCon, on va voir où ça va aller. Je me dis, c'est presque cette année, au niveau des jeux, bien sûr, est-ce que vraiment, ils ont encore à cœur de faire de bons jeux ? Et c'était l'essentiel de ce que de ma réflexion sur la société. Aujourd'hui, avec cette histoire, ça m'a forcé à ma première réaction, c'était un petit peu à quoi s'attendre quoi. Une boîte qui a autant de business avec la Chine, qui est aussi grosse, ils peuvent pas vraiment faire autre chose. C'est malheureux, je le regrette, mais ils peuvent pas faire autre chose. C'est mécanique avec leur implication dans la société, avec les projets développés. Il y a beaucoup de projets développés sur mobile qui seront peut-être bien ou peut-être pas bien, j'en sais rien, mais qui sont évidemment orientés vers le marché chinois parce qu'ils jouent beaucoup sur mobile. Ils vont beaucoup développer sur PC et sur console aussi. Il n'y a pas de raison de se priver, mais c'est un gros engagement vers le marché chinois. Je me disais, c'est compliqué de faire autre chose. Et puis, j'ai aussi cette impression, j'en parlais sur le Slack des Patriotes, des amis qui soutiennent le Rendez-vous Tech, et certains m'ont dit, Guillaume, pour ne pas le citer, me dit, je leur parlais de ce dont je parle dans le Rendez-vous Tech en disant, en parlant du système de crédit social, en parlant de la manière dont la vidéosurveillance et la technologie sont utilisées pour persécuter la communauté ouïghure musulmane de l'ouest de la Chine. Et dans ce contexte, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Et Guillaume me disait, oui, enfin, c'est pas du whataboutism, un petit peu quand même, c'est-à-dire dire, oui, il y a un truc qui est mauvais qui s'est passé ici, mais regardez, là aussi, il y a des trucs qui sont mauvais, donc on s'en fout, ou genre, on noie le poisson, quoi. Et je comprends, il y a un petit peu de ça, mais j'ai aussi l'impression que c'est de la préoccupation pour les droits de l'homme qui est un petit peu opportuniste aujourd'hui. Parce que la Chine, ça date pas d'hier, ces problèmes. Et on en parle, et moi j'en parle dans le contexte du Rendez-vous Tech depuis un moment. Et donc, il ne faudrait pas attendre qu'il y ait ce problème avec Hearthstone pour s'en préoccuper. Donc, et en même temps, je me dis, oui, mais si jamais, par ce biais, ça fait remonter ces préoccupations, pourquoi pas ? Peut-être que c'est pas plus mal que cet exemple. Il y a des sportifs de tous les âges qui ont exprimé leur soutien à telle ou telle cause et qui leur ont donné plus de visibilité. Et là, ça donne de la visibilité dans le cadre du jeu vidéo. Mais ça montre que, à mon sens, pour moi, le problème, c'est la Chine. Blizzard est accessoire dans l'implémentation et c'est un problème. Mais le vrai problème, c'est que la Chine est de plus en plus en train de devenir une dictature. Et j'en arrive à ma conclusion. Je suis désolé de faire très long, mais je veux vraiment poser les choses. Là, il y a un truc qui est un petit peu différent, peut-être. C'est que c'est quelqu'un qui tweetait ça. J'ai trouvé ça très intelligent. C'est pas qu'ils sont juste complices de ce qui se passe d'une certaine manière, mais ils deviennent agents de la Chine en agissant en leur nom. Et là, il y a un petit truc qui est différent et ça m'a fait penser à différents articles que j'ai lus ici et là ces dernières semaines sur l'influence qu'est en train d'exercer la Chine sur la culture occidentale. Et il y a vraiment un clash de culture là. Et bon, ça, on est loin du jeu vidéo et de la PlayStation 5. On va y revenir, mais il y a vraiment, j'ai l'impression, un clash de culture. Et je me demande si à travers les investissements et à travers l'attrait de la population chinoise qui est tellement énorme et qui est grandissante et qui a une promesse de croissance incroyable, ils ne sont pas un petit peu en train de nous, alors définissons le nous comme on veut, de nous prendre en otage en disant hey, « vous voulez ces trucs ? Faudrait peut-être faire plutôt comme ci, plutôt comme ça. » Et dans une certaine mesure, je pense qu'on peut s'accommoder de ces arrangements. Et en même temps, je me demande si là, on n'est pas en train d'arriver à un point de rupture où il faudrait que l'Occident, je vais dire l'Occident parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, dise « Ouais, mais là, non. » Est-ce que Blizzard n'aurait pas dû dire « Désolé, là, on ne peut pas. » Ou faire les choses de manière différente, je ne sais pas, mais quitte à peut-être dire « Bah, non, là, si le risque, c'est que le gouvernement chinois... » Parce que c'est vraiment, comme je le disais, ce n'est pas Blizzard contre Blitzchung. C'est Blizzard contre la Chine, là. Si jamais ils ne font pas ce qu'il faut, entre guillemets, avec Blitzchung, ce n'est pas un streamer ou un compétiteur d'e-sport qui vont se mettre à dos. C'est la Chine. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La Chine peut, en 2 jours, révoquer toutes les licences de jeu de Blizzard et les sortir du pays immédiatement. Et du coup, c'est des conséquences beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Mais peut-être qu'il faudrait. Peut-être que Blizzard devrait, comme ils en font l'image qu'on a beaucoup montrée du « World always needs more heroes », peut-être que Blizzard devrait se lever et dire bah, « Désolé, non, là, on ne peut plus ». Et du coup, c'est un coût énorme pour Blizzard financièrement. Mais peut-être qu'il faudrait. Peut-être qu'il faudrait que ce mouvement soit initié dans l'Occident. Alors, ça ne veut pas dire guerre ouverte avec la Chine. Ça veut dire simplement, bon, ben, désolé, là, on ne peut plus. Et la Chine, j'imagine, se portera très bien sans Blizzard et sans les grandes sociétés de cinéma qui adaptent leurs films pour s'assurer que ça plaise au marché chinois. Sans les... Ils se porteront très bien. Peut-être même, je ne sais pas, peut-être que ça serait à discuter. Peut-être que ça serait néfaste pour les populations chinoises, parce qu'il y a toujours ce grand débat, est-ce qu'il vaut mieux isoler un pays avec lequel on n'est pas d'accord, et du coup faire genre un revenir à la guerre froide et les isoler complètement, bah, la population pourrait peut-être en souffrir, mais sur le long terme, ça peut marcher pour les forcer à s'ouvrir. Bon, la Chine, c'est un peu particulier. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux s'infiltrer dans le pays et peu à peu changer les mentalités ? Là aussi, ça prend longtemps. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais là, sur ce coup, mon opinion a un petit peu évolué. Et ce que j'aimerais, je ne sais pas si c'est possible, ce que j'aimerais, oui, c'est que Blizzard, d'une certaine manière, dise « Désolé, mais là, non ». C'est un petit peu, pas juste parce que Hong Kong, bien sûr, c'est un problème essentiel, mais pas juste parce que Hong Kong, parce que La Chine est en train de faire payer à tout le monde le prix de ses trésors. Et je me demande si ce prix est quelque chose qu'on a intérêt à payer sur le long terme. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, peut-être que ça changera, aujourd'hui, je me dis, ouais, même si ça coûte, même si c'est compliqué, c'est, d'après ce qu'on a vu, c'est 13% de leurs revenus, c'est important à voir aussi, hein, parce qu'une société comme Apple, par exemple, toute leur infrastructure est originaire de Chine. Si la Chine, demain, dit ben, « on ne fabrique plus vos téléphones », ils sont vraiment dans la merde. C'est remettre en péril la société dans son intégralité. Blizzard, ce n'est pas tout à fait le cas. Imaginons qu'il y ait 15% des revenus qui viennent de Chine. Bon, ils peuvent survivre. Oui, ils abandonnent la croissance future. Peut-être même que, allez, dans 2 ans, 3 ans, les choses peuvent se réarranger, même s'il y a un clash terrible. Dans 5 ans, les choses peuvent se réarranger, j'en sais rien, mais c'est clairement dangereux pour Blizzard, pour une partie de leurs revenus, mais peut-être que ça vaudrait le coup. Donc, aujourd'hui, je suis plus du côté... Je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir, parce qu'ils ne peuvent pas réintégrer Blitzchung, évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'en sais rien. Mais je trouve ça malheureux et dommageable, et j'aurais aimé que Blizzard soit le héros qu'ils montrent dans leurs jeux vidéo. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est aujourd'hui ce sur quoi je m'arrête, ce que j'aimerais. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter supprimer mon compte Blizzard? Non. Est-ce que je vais arrêter de jouer à des jeux Blizzard? Non, je ne pense pas non plus. Je vais aller à la BlizzCon dans quelques semaines. J'espère que ça sera sympa et qu'on aura de bons jeux. Mais espoir que me donnait la société au moment où ils ont commencé à intégrer l'inclusivité dans leur développement et dans leurs équipes, bah cet espoir, il est un petit peu écorné, on va dire, voire mon image de la société a un petit peu changé, bien sûr. Et on va voir où ça va aller, mais mon opinion a évolué sur ce point. Donc, je ne sais pas ce que je voudrais qu'ils fassent, mais j'aimerais bien qu'il fasse quelque chose. On va voir si ça va se produire. Je suis désolé, j'ai parlé très 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 longtemps en monologue. Je vous laisse le mot de la fin sur ce sujet, si vous voulez, avant qu'on avance. L'une de vous deux, non ? Eva ?
Pour moi, déjà, le Blizzard de Mike Morhaime, enfin, de l'époque, il est plus là, en fait. Ouais. Quand tu vois les valeurs qui ont fondé la société, de toute façon, elles sont plus du tout, c'est plus du tout l'esprit, je pense.
Ouais. Et ça, c'est dangereux d'idéaliser Morhaime. Hein. Moi, je me souviens de l'intérieur quand on avait le clusterfuck total avec Diablo 3. Enfin, on l'a supplié de s'excuser.
Je suis pas du tout fan de Blizzard, donc j'étais pas. Ouais. Mais je pense que ils auraient pu. Enfin, je pense pas qu'ils avaient tant que ça les mains liées, donc ils auraient pu faire un choix différent. Même si évidemment, le joueur aurait été sanctionné, ça c'est sûr. Mais en tant que journaliste, je vais continuer à couvrir évidemment les jeux bizarres, mais en tant que joueuse, j'y jouerai plus après cette décision du coup.
T'as décidé, toi, de boycotter Blizzard, en fait.
Oui.
D'accord. Claire, un mot de la fin ?
Alors, je ne suis pas particulièrement joueuse des jeux bizarres, donc je ne vais pas les boycotter ou continuer à y jouer. Par contre... en fait, j'attends de voir un peu ce qui va se passer, comment Blizzard va réagir aussi aux réactions de ses joueurs, puisque effectivement, ils sont un peu les fesses entre deux chaises, en fait. D'un côté, ouais, il y a les intérêts économiques et de l'autre côté, il y a un intérêt éthique, comme tu le disais à juste titre. Et du coup, je pense que d'ici une semaine, on va avoir le fin mot de l'histoire et ils vont avoir du mal à l'enterrer, en fait, s'ils ne prennent pas vraiment position dans un sens ou dans un autre, quoi.
Ouais, je crois que s'ils réussissent à faire un tour de passe-passe qui ménage la chèvre et le chou, ça sera invraisemblable. Je pense qu'ils travaillent 24 heures sur 24 pour essayer de trouver un moyen de s'en sortir par une déclaration ou une action, ou je ne sais pas. Mais oui, moi, j'espère qu'ils vont dire quelque chose. J'espère en fait qu'ils vont accepter de se mettre en danger par rapport à la Chine pour défendre des idéaux. Mais
est-ce que c'est leur rôle, tu vois ? Enfin, c'est quand même...
C'est ce que je disais au départ. C'est ce que disait, moi, ma première réaction, c'était est-ce que... Parce que même les gouvernements, ils vont sur la pointe des pieds quand il s'agit de la Chine et de Hong Kong. Les gouvernements ne disent pas les choses clairement. Est-ce qu'on veut qu'une société de jeux vidéo, ça soit son rôle de donner la fessée à la Chine ?
Après, moi, ce que j'aurais vu, c'est, par exemple, pour la NBA, donc quand il y a eu le problème avec les Houston Rockets... Donc c'était le même problème. Il y a eu des excuses de la NBA par rapport à leur décision quand même. Donc je pense des excuses par rapport à la communauté, ça pourrait être bien. Mais pas non plus qu'ils reviennent sur la décision. De toute façon, ça c'est fait. Ça empirerait les choses.
Le problème, c'est que les excuses, moi j'aimerais bien aussi, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah, on est désolé de l'avoir banni, mais il est toujours banni. Il faudrait qu'ils disent, mais à l'avenir, on ne fera pas comme ça, ou je ne sais pas, tu vois, mais ils ne peuvent pas en même temps. S'ils disent, à l'avenir, on ne fera pas comme ça, ils invitent des messages politiques, et en particulier des messages politiques contre la Chine, dans toute leur compétition, ce qui est compliqué aussi, et ce qui même, en dehors du fait que ça soit la Chine, comme on le disait tout à l'heure, on ne veut pas que les tournois de Hearthstone ou de n'importe quoi se transforment en quel est le parti politique que je soutiens, c'est clair. Donc, je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir. À moins de dire, ils pourraient dire, désolé, et on réintègre BlizzChung. Non, ils ne vont pas le faire. J'en sais rien. Je ne sais pas.
En fait, une lettre d'excuse, ça montrerait au moins qu'ils ont considéré toutes les réactions de la communauté. Parce qu'en fait, là, il y a un silence de Blizzard. Ils bannissent absolument toutes les discussions sur leur chat, les forums, in-game, etc., sur le sujet. Donc en fait, on a juste l'impression qu'ils en ont entre guillemets rien à faire, donc forcément les réactions sont de pire en pire, et c'est ça aussi qui fait un peu un effet snowball, quoi.
Ouais, bon, ça fait deux jours, hein. À mon avis, il faut au moins deux, trois jours avant de... Bah, ça va se calmer, mais même si ça ne se calme pas, je pense qu'il faut quelques jours pour réfléchir à ce que tu vas dire et trouver une bonne solution. Donc moi, j'espère qu'ils vont dire quelque chose, je pense qu'ils doivent, ne serait-ce que parce qu'il y a l'échéance de la BlizzCon et qu'ils ne veulent pas que la BlizzCon se transforme en manifestation... anti-parti communiste chinois, ce que ça a de fortes chances de se faire. Enfin, il y a toujours des évangélistes chrétiens qui sont aux portes de la BlizzCon disant les jeux vidéo c'est le diable, venez vers Jésus. là, il va y avoir des groupes de, d'associations qui combattent le gouvernement chinois qui vont se former à l'entrée de la BlizzCon, c'est garanti. Des gens qui vont monter sur scène, qui vont poser des questions, tu sais, qui vont monter sur scène avec le drapeau de Hong Kong en courant. Enfin, ça va être... Il faut qu'ils disent quelque chose et j'espère que ce qu'ils vont dire... J'en sais rien. Mais ce que j'aimerais, je crois que ce n'est pas réaliste, mais ce que j'aimerais, oui, c'est qu'ils disent... qu'ils manifestent leur soutien... Qu'ils disent qu'ils ne, d'une certaine manière, qu'ils montrent qu'ils ne vont plus à l'avenir se plier aux demandes du gouvernement chinois et que les conséquences seront ce qu'elles seront. Voilà, je crois que c'est... Alors, comment le faire, je ne sais pas, mais l'essence du truc, c'est on ne se pliera plus aux demandes du gouvernement chinois, on observera les règles telles qu'elles sont, mais clairement, cette... peut-être sans le dire, mais clairement, cette punition était hyper dure. Et on appliquera toujours nos règles, y compris pour les messages politiques, mais on ne se pliera pas aux demandes du gouvernement chinois. Comment le faire ? J'en sais rien. Ça aurait des conséquences. Je suis sûr que le ministre de la Culture décrocherait son téléphone pour appeler Tencent, qui appellerait Bobby Kotick, et ça risquerait d'avoir des conséquences dramatiques pour l'activité de Blizzard en Chine, sans doute, même s'ils disent juste un truc en demi-teinte, mais peut-être que ça vaut le risque, quoi. Et encore une fois... Pour moi, c'est parce qu'il y a cette influence grandissante d'un gouvernement totalitaire dans toute la culture occidentale qu'il est peut-être temps de... Non pas, encore une fois, c'est pas qu'il faut déclencher la guerre, mais de dire, ok, là, stop, vous êtes en train de boulier tout le monde. Nous, on a, à ce stade, on est arrivé à un stade où on ne peut plus accepter certaines choses. Et je pense que ça serait un message qui plairait pas à tout, enfin, qui ne satisferait pas tout le monde, qui devrait être relativement subtil, peut-être même, mais qui serait important de faire, je crois. Est-ce qu'il va arriver ? Je crois pas. Mais bref. Ah. J'espère que Diablo 4 sera bien quand même, quand il sera annoncé à la BlizzCon. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Est-ce qu'à la BlizzCon, on... Moi, je crois que... J'en sais rien. On en parlera à ce moment, mais... la BlizzCon risque d'être des bons jeux quand même. Donc, il faut garder ça à l'esprit.
Ça n'a rien à voir.
Est-ce que ça n'a rien à voir ? Est-ce que c'est le même problème que quand on découvre qu'un réalisateur de talent a été harcelé et violé des femmes pendant toute son histoire ? Est-ce qu'on arrête de regarder ses films ? Est-ce qu'on arrête d'écouter la musique de Michael Jackson ? J'en sais rien. Tu dis, Claire, toi, tu dis, bah non, on peut faire les deux. Enfin, ce n'était pas tout à fait de ça qu'on parlait, mais...
Non, en fait, ce que je dis, c'est que ça n'empêche pas qu'ils peuvent faire des annonces de jeux qui vont être bien par la suite. Après, c'est une décision personnelle de posture à choisir. Mmh. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas ces jeux, tu vois.
Ouais, ouais.
Pour moi, c'est deux choses différentes. Mmh. Et par rapport à des personnes qui font des choses horribles et qui sont des réalisateurs ou autres, en fait, pour moi, c'est différent de juger... la réalisation d'un film, par exemple, enfin, de juger le film et de juger la personne, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, je trouve qu'il faut, et je trouve qu'il faut s'efforcer de séparer les deux, en plus. Mais c'est une question de caractère aussi, de si les gens sont très entiers ou pas.
Ouais. Donc, Bon, bah écoutez, on va conclure ce sujet. Oh là là, mais presque 50 minutes. Je pense que c'était important d'aller au fond des choses. J'espère que ça vous aura intéressé, toutes ces discussions. Si vous avez des avis sur tout ça, si vous pensez qu'on a dit des bêtises ou si vous êtes plutôt d'accord, n'hésitez pas à venir le faire, à venir nous le dire sur le blog de l'émission, sur frenchspin.fr, de manière respectueuse, évidemment. On signalera également que des employés de Blizzard ont exprimé leur mécontentement avec cette décision et que évidemment les employés sont séparés de la société elle-même. Je crois que s'il y a un employé qui peut être tenu responsable, j'imagine que c'est soit J. Allen Brack lui-même ou Bobby Kotick qui sont les présidents de ces entités. Et même là, il ne faut quand même pas tomber dans les extrêmes qu'on peut voir quelquefois sur Internet. Mais ce qui est certain, c'est que les employés eux-mêmes, bah, ils ne sont pas vraiment impliqués là-dedans. Et comme... Je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Eva, et c'est leur travail aussi, et ça peut être séparé si on y arrive. Bref.
En tout cas, pour les employés, là, ça va être dur, à mon avis.
Ouais,
j'imagine
ouais,
même pas ceux qui gèrent le support, etc.
Ouais, d'ailleurs, il y a des... on a vu des tweets de gens qui disent « Ah, Blizzard a désactivé l'authentification double facteur pour nous empêcher de supprimer nos comptes. » Alors évidemment, moi, j'imagine que c'est le système qui n'a pas l'habitude... Il y a une surcharge du système par rapport au niveau habituel parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de supprimer leurs comptes et donc le système ne fonctionne pas bien.
Je pense que c'était ça parce que c'est redevenu à la normale, je crois, il y a quelques heures.
Mais comme à chaque fois, Twitter s'emballe et il y a des gens qui disent « Ah, Blizzard a supprimé l'autorisation pour nous garder dans leur compte, machin. » Bon, évidemment que non, c'est pas ça, et les employés. Enfin bon, bref, allez, on a parlé 50 minutes de tout ça. Parlons de PlayStation 5. Qu'en dites-vous ? Un peu plus d'enthousiasme, là, PlayStation 5, les consoles. Youpi ! Non ?
Ouais, si, c'est bien. Moi, je trouve une nouvelle génération de consoles, c'est bien.
Super, merci, merci Claire.
Non, mais c'est vrai. Après, il y a des choses où je me disais, ah, oh, c'est trop bien, la rétrocompatibilité PlayStation 5, PlayStation 4, c'est génial. Et puis en fait, ce matin, ils ont l'air de dire que finalement, ce ne serait pas exactement ça.
Ouais, ils ont l'air de commencer à préparer les gens à ce que ça ne soit pas à 100%. Alors j'imagine que ça veut dire qu'il y aura quelques fonctions ou quelques jeux qui ne seront pas compatibles. Mais j'imagine que ça sera quand même l'essentiel, mais... À voir.
Non, mais, enfin, en phase 2, ils ont du multiplateforme total, quoi. Donc,
c'est
en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont être capables de proposer pour que les gens achètent la PlayStation 5 et partent pas chez Stadia, qui va devenir probablement un gros acteur, ou chez Apple, qui essaie de mettre ses billes aussi dans les trucs. Enfin,
ouais, il y a de la concurrence, quoi.
Ouais, la concurrence a toujours été très rude avec la Xbox, mais et puis enfin il y a le PC aussi, hein, parce que le PC il y a 5 ans on disait oh là là le PC bientôt c'est mort, et puis en fait on se rend compte que les ventes PC sont bien élevées et continuent à croître parce qu'il y a de plus en plus de joueurs finalement, mais tout le monde pensait que le PC, enfin il y a 5 ans tout le monde pensait que le PC, c'était la fin.
Le PC, c'est cyclique. Hein. Tous les 5 ans, tout le monde dit « Ah, maintenant, c'est les consoles, maintenant, c'est le PC. J'ai l'habitude de voir ça. Mais oui, pour la PlayStation 5. Alors, quelles informations nouvelles on a ? Il y a un nouvel article dans Wired qui détaille des caractéristiques techniques de la console et de la manette. C'est sans doute parce que les manettes commencent à arriver dans les mains des développeurs et donc, ils ont fait une petite interview pour passer leur message de manière un petit peu plus contrôlée. Donc, les infos qu'on avait plus ou moins déjà ou qui sont confirmées, dont on se doutait, le ray tracing, ça sera bien du ray tracing en hardware avec le processeur. Le SSD va permettre non seulement d'accélérer les temps de chargement, les temps de démarrage et faciliter le streaming, mais aussi un truc intéressant, c'est de réduire la taille des jeux installés parce qu'il se trouve que les disques durs classiques étaient tellement lents que les développeurs mettaient des assets, des graphismes, de la musique, etc. à plusieurs endroits, donc les dupliquaient pour que la tête de lecture puisse y avoir accès plus rapidement parce que c'était plus proche. Donc ça va réduire la taille des installs, ce qui est pas mal. Il y aura un lecteur de Blu-ray UHD, donc ça c'est confirmé aussi. Il y a des choses comme les installations modulaires, on peut avoir la campagne solo et la campagne multi et le jeu multi indépendamment l'un de l'autre et supprimer une partie à un moment si on a fini la campagne solo par exemple. Il y aura dans l'interface des données de ce que font vos amis qui seront beaucoup plus précises et mises à jour en temps réel, genre votre ami est dans tel jeu en train de faire telle activité, si vous voulez le rejoindre, allez-y, c'est super cool. Et la manette, des choses qui ont l'air convaincantes d'après le journaliste de Wired, c'est les gâchettes sur l'arrière de la manette qui ont un retour haptique et un feedback adaptatif. C'est-à-dire que quand on roule sur une route en béton dans un jeu, eh ben c'est un feeling des manettes qui est très différent de si on roule dans de la boue. Et dans la boue, ça donne l'impression, d'après lui, hein, il l'a essayé, ça donne vraiment l'impression qu'on est en train de rouler dans la boue. Ou on tire, si on tire un arc, c'est différent de si on tire avec une un pistolet, etc. etc. Bon, j'aurais été sceptique, mais encore une fois, le journaliste a l'air très convaincu. Donc, et c'est différent des retours, des vibrations des manettes Xbox. C'est beaucoup plus poussé que ça. Nouveau haut-parleur, USB-C, etc., etc. Et bien sûr, confirmation que ça s'appelle PlayStation 5 et ça arrivera en, pour les, l'année prochaine, pour les vacances, enfin pour Noël 2020. Donc voilà pour la PlayStation 5, des choses qui vous plaisent là-dedans ?
Eva, bon, c'est vrai, j'attends de voir plus d'infos. Après, voilà, j'ai joueuse PC avant tout.
Donc, ça ne te parle pas trop.
Ce n'est pas une console que j'achèterais, mais après, c'est les consoles que je trouve les plus intéressantes en général, les PlayStation. Donc je pense qu'ils ont encore plein de choses à nous annoncer, donc j'ai surtout hâte de voir la suite.
Bah là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'infos qu'ils ont fait passer comme ça, encore une fois, sans doute parce que les développeurs auraient leaké autrement. Mais du coup, je me demande ce qui reste à donner comme information. Peut-être les jeux, c'est le truc le plus important.
Oui, c'est surtout aux jeux auxquels je pensais. Ouais. Ouais.
Et après, alors personnellement, moi, quand j'ai vu les articles parler des interfaces haptiques, en disant oui, alors il y a plusieurs niveaux sur les gâchettes de derrière, j'étais là, oui, alors appeler ça interface haptique, c'est peut-être un petit peu, enfin c'est un bon mot pour dire que ça va légèrement améliorer les sensations. Après, je peux me tromper, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment une bonne sensation, hein, ça j'attends de voir, mais en tout cas je suis bloquée sur le mot haptique, parce que quand même les interfaces haptiques, c'est aussi les systèmes qui fonctionnent avec le cerveau, en connectant vos machines et tout. Du coup, je trouve que bon, pour parler d'une manette, c'était un petit peu fort peut-être.
Mais je crois que le terme haptique est utilisé notamment dans les retours par rapport au toucher, tout simplement. Et c'est beaucoup utilisé dans les téléphones mobiles. Et souvent, effectivement, c'est un petit peu décevant. Donc, on vous dit ça. Mais enfin, en même temps, parfois, on a l'impression, sans qu'il y ait un bouton, que le retour haptique vous donne l'impression d'un bouton. Et ça fonctionne. Mais je ne sais pas, moi aussi, j'aurais été très sceptique si Wired n'avait pas dit si ça marche. Donc là, je suis plutôt en mode j'attends de voir, quoi. Oui, peut-être qu'une vraie résistance sur la manette pourrait donner quelque chose. Plus de news sur les consoles et les next-gen. La Xbox One va lancer Microsoft va lancer les tests du projet xCloud ce mois-ci. Google Stadia a annoncé que d'ici quelques années, le streaming sera encore plus réactif que le jeu local grâce à de la prédiction de machine learning qui va prédire ce que vous allez faire. Et donc, c'est marrant, il y a plein de gens qui ont dit « Ah ouais, bah donc le jeu joue à ma place ». Non, c'est pas tout à fait ça. Il va prédire, anticiper et du coup, une fois que vous le faites, c'est confirmé, et donc il a déjà les choses prêtes à vous envoyer. Je pense que c'est un truc de ce genre-là, mais à voir ce que ça donnera. Valve est en train de mettre en place le Remote Play Together, c'est-à-dire que par streaming, vous pouvez envoyer un jeu que vous avez vous en local à des amis, et ils vont pouvoir jouer avec vous sur votre jeu local, mais eux, ils verront l'image en streaming, comme si vous étiez assis autour d'un canapé, enfin sur un canapé, et donc vous pouvez jouer ensemble. Il y a plein d'autres news sur ces sujets-là. Il y a des assistants personnels de Google sur la Xbox, il y a Sony qui a des brevets sur un assistant personnel. Le prix du PlayStation Now, ça c'est important, qui a été baissé de 50%. On est maintenant à 10€ par mois pour le PlayStation Now qui permet d'installer et de streamer les jeux, également sur PC d'ailleurs, de streamer les jeux, ou alors 60€ ou 70€ par an, c'est un prix vraiment attractif, et ils ont mis des jeux, des gros jeux du catalogue, genre God of War et d'autres jeux de ce type, dans le catalogue pour des durées limitées, donc qui vont être renouvelés tous les 3 mois, donc c'est une vraie mesure agressive de la part de Sony par rapport aux autres services du type. On a aussi le départ de Sean Layden du côté de Sony et de Mike Ibarra du côté de Microsoft, qui sont des grosses figures de ces deux sociétés et qui vont partir sans doute faire d'autres choses. Moi, j'imagine qu'il va y avoir un jeu de chaise musicale entre les gros exécutifs qui se font payer un petit peu plus ailleurs après leur expérience. Sony est d'ailleurs en train de se restructurer. On parlait de licenciements ailleurs. Bah là, il y a une volée de licenciements qui a eu lieu notamment chez Sony UE, Sony Europe. J'imagine que c'est dû au fait qu'ils reprennent la communication en interne et qu'ils ont leur PlayStation Direct, PlayStation Connect, je ne sais plus, les Nintendo Direct de Sony qui vont nécessiter moins de monde peut-être, je ne sais pas. Bref, il y a tout un tas de news dans ces domaines. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans entre le streaming et les chaises musicales qui vous inspirent, Eva ?
Non,
pas vraiment.
Trop,
très bien.
Trop d'infos en même temps. Là.
Trop d'infos en même temps, désolé. C'est vrai que j'avance un peu vite parce qu'on est déjà à une heure. Claire, il y a des choses là-dedans qui t'inspirent où on avance sur les jeux
Alors, je pense que c'est pareil par rapport à ce que je disais tout à l'heure où la PlayStation 5 va avoir des gros concurrents. En fait, là, tout le monde essaie un peu de raccrocher les wagons pour arriver sur cette nouvelle génération de consoles d'expérience utilisateur où on pourra jouer un peu tout le temps sur presque tous les supports. Ça pose des vraies questions par rapport aux consoliers parce que du coup, le modèle économique de production et de vente va changer. Ça pose aussi des questions, on en parlait tout à l'heure, mais sur à qui appartient le... Enfin, à qui est-ce qu'on achète le jeu, finalement comment on peut se partager un jeu qu'on a acheté? Est-ce que du coup on va remettre des systèmes de DRM partout
Ah ben ça ils y sont déjà hein, donc ça règle la question mais resserrer la vis tu veux dire.
Est-ce que, bah non en fait c'est là du coup ce qu'ils disent avec les histoires de partage de streaming etc, quelque part ils l'enlèvent un peu quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, là, Valve utilise le multijoueur avec du streaming, mais ça se trouve, ça ne va pas plaire aux développeurs qui vont dire « Non mais attends, là, il y a quatre personnes qui jouent au jeu, ils doivent avoir le jeu, tous les quatre. » Et du coup, c'est, effectivement, ils pourraient verrouiller la chose là et dire « Bah non, vous n'avez pas le droit d'utiliser en streaming, t'as raison. Ouais. »
Ou alors décider de le vendre vachement plus cher.
Ça pourrait arriver aussi, ouais.
Ça pourrait être une démarche, mais on ne sait pas trop en fait comment ça va évoluer. Ça, c'est quand même très très. On va dire, ça fait quoi? Allez, 2 ans qu'on nous en parle. Alors, ça fait 10 ans qu'on nous promet qu'à un moment on pourra jouer n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel support, que tu pourras commencer à jouer sur ton téléphone mobile, continuer sur ta console, finir sur ton PC. Mais là, on est au moment où ça fait 2 ans qu'on nous promet des choses, et là, on est au moment où ça y est, ça arrive vraiment. Ouais. Et tout ça, c'est concret, c'est hyper intéressant, et en même temps, c'est quand même vraiment le saut dans l'inconnu, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai que ça va tout changer. Et l'année 2020 va être le début de quelque chose d'hyper excitant. Moi, je suis toujours comme un petit fou au moment où on change de génération de console. C'est vrai que ça change beaucoup de choses. Et là, c'est peut-être même un changement encore plus important que ce qu'on a eu par le passé, quoi.
Et ça risque aussi peut-être de changer le modèle de production des développeurs, mais chez les éditeurs aussi, sur comment ils financent leurs jeux. Enfin, potentiellement, ça peut vraiment avoir énormément d'implications parce que le système technologique et l'approche des joueurs changent. Donc, moi, perso, je trouve ça hyper intéressant. Hein.
On est d'accord, moi aussi. Et j'ai hâte de pouvoir en parler avec plus de concret. Bon, parlons des jeux auxquels on a joué ces derniers temps, et je vais commencer non pas avec Destiny 2 Shadowkeep, mais avec le jeu de loi, le Untitled Goose Game. Est-ce que vous y avez joué? J'ai oublié de vous poser la question avant. Et Eva, Claire, vous avez joué à Untitled Goose Game?
Moi non, mais j'ai regardé beaucoup de streams, et je continue à en regarder parce que ça m'amuse beaucoup.
C'est très drôle. Ouais, Claire.
Et j'adore tous les mêmes aussi qui sortent sur les réseaux dessus. Mais...
Pareil, c'est parfaitement. J'hésite entre brillant et ou stupide. Enfin,
je crois que c'est un petit peu les deux à la fois, en fait.
C'est ces jeux où on ne sait jamais, en fait.
Ouais. Moi, j'y ai joué un petit peu. J'avoue que je fais un petit peu office de mouton noir dans mon appréciation d'Untitled Goose Game, parce qu'il y avait tellement de buzz, tellement de hype sur ce jeu la semaine dernière. Je l'ai lancé et je me suis dit, ça va être incroyable, ça va être un truc totalement fou. Et en fait... comment dire, il est sympa et il y a effectivement quelque chose de brillant dans... pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu indépendant qui a fait beaucoup de bruit depuis un certain temps et qui a finalement été lancé la semaine dernière, où on joue une oie qui va foutre la merde. Mais foutre la merde comme fout la merde une oie. Ce n'est pas qu'elle prend un fusil à pompe tout à coup et qu'elle va tirer sur les gens de la ville. C'est qu'elle va aller voler des clés, foutre un chapeau dans le lac, ce genre de truc. Et la manière dont la loi se déplace, j'aurais jamais pensé que voir une oie marcher était tellement drôle dans un jeu vidéo. Et être loi qui marche pouvait être tellement marrant dans le jeu vidéo. Et quand elle couac, je ne sais pas comment se dit le cri de loi, je suis sûr que certains auditeurs pourront me le, me le rappeler. Quand elle couac, c'est la réaction des gens qui sont autour. Quand tu couac, tu arrives et tu fais couac, couac. Et ils se retournent et ils font « Mais qu'est-ce que c'est que c'est toi ?» Et ils te regardent un petit peu. Et puis, c'est hyper bien foutu. Et c'est vraiment, être loi, c'est marrant. Le simple fait de marcher, de secouer les ailes, de couaquer, c'est vraiment distrayant à un niveau que je n'aurais pas imaginé. Maintenant, le jeu en lui-même, c'est une sorte de mélange entre un jeu de puzzle et un petit peu de stealth, un jeu de furtivité un petit peu. Et je trouve qu'on en a fait le tour un petit peu vite. Je n'ai pas énormément joué, mais je me suis lassé quand même relativement vite. Au-delà de l'effet de la nouveauté, ça ne m'a pas beaucoup, beaucoup plus convaincu. C'est le genre de jeu, vous avez raison, qui se regarde aussi bien presque qu'il se joue. Donc, voilà, sur le Untitled Goose Game, mon avis complètement personnel et subjectif.
Mais il n'y a qu'un jeu indépendant qui peut se permettre de faire un truc comme ça de l'autre côté.
Il n'y a qu'un jeu, pardon ?
Indépendant qui peut se permettre de faire un truc comme ça.
Ah mais c'est sûr. Si Blizzard, par exemple, avait sorti un truc comme ça, j'aurais mangé mon chapeau. Je ne sais pas, c'est complètement invraisemblable. Et c'est effectivement un type d'expérience que ne peut proposer qu'un indé, quoi. C'est complètement étrange, ça sort de nulle part, c'est un ovni. Et il y a plein de gens qui adorent. Donc, c'est assez court, hein, je crois, il fait 2-3 heures, quelque chose comme ça. Mais, et ça donne lieu à des mèmes, mais de partout, qui sont hyper drôles. Et cette Loi est un héros, quoi. Ça ne me surprendrait même pas de voir arriver Loi de Untitled Goose Game dans Smash Bros. Tu vois, c'est complètement fou, ce personnage improbable qui est super drôle, quoi. Destiny 2 Shadowkeep. Alors j'étais hyper excité par Destiny 2, je suis un grand fan de Destiny de la première heure, comme j'en parle souvent dans cette émission. Shadowkeep, c'est une extension qui est un petit peu particulière pour ce titre, parce que c'est une extension vraiment de transition. Il passe de leur deal avec Activision, de leur deal d'édition avec Activision, à une autonomie complète. Il transforme de nombreuses parties du jeu. L'essentiel de cette transformation, c'est qu'il passe à une version du jeu où le endgame est de loin plus important que la progression. Tous les joueurs se retrouvent à la fin du jeu et ont plein d'activités différentes à faire. Je dirais que mon impression... j'ai fini la campagne, j'ai joué un petit peu en endgame. La campagne est... Comment dire ? Elle est aussi bonne que l'essentiel des campagnes de Destiny, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez mauvaise. L'année dernière, j'avais chanté les louanges plutôt de Forsaken, parce qu'elle était vraiment bien. C'était une bonne campagne, je la trouvais super bien foutue, bien conçue, intéressante et tout. Là, c'est vraiment pas le cas. On est de retour à ce qu'on avait les années précédentes. Et c'est une campagne qui est passablement oubliable, à peine compréhensible. Il se passe des trucs sur la Lune. Il y a Eris Morn qui vous dit que l'artefact du machin lui parle et qu'il y a des triangles, des pyramides partout qui sont des... Enfin, ça n'a aucun sens, on s'en fout. Voilà, c'est Destiny, quoi. Mais, comme toujours, les activités sont sympas. Peut-être manque un petit peu plus de variété que ce qu'on a eu l'année dernière, mais... On est au début de la nouvelle saison de Destiny. C'est toujours aussi satisfaisant. Il y a, au niveau du gameplay, il y a toujours des secrets, des trucs à chasser, des activités, des listes interminables de trucs à faire qu'il faut cocher pour dire « je vais avoir mon arme cette semaine ». Mais c'est aussi bien et aussi pas bien que Destiny 2 l'a toujours été. Donc, ce n'est pas un truc que je recommanderais aux gens qui... n'ont pas accroché à Destiny par le passé. Ce n'est pas un truc qui va vous retourner sur Destiny. Et même l'expérience free-to-play, vous pouvez y aller. Il y a maintenant une bonne partie, une partie substantielle de Destiny qui est gratuite, mais ça souffre du défaut de Destiny, c'est-à-dire qu'on arrive et on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe, on ne sait pas où on doit aller, etc. Donc voilà, Destiny 2 reste un excellent jeu pour les gens qui aiment Destiny. Et moi, je suis dans cette catégorie, donc je suis super content. Il y en a plein qui sont dans cette catégorie et qui sont super contents. Je ne suis pas convaincu que ça convainque ceux qui n'étaient pas déjà convaincus. Eva, je sais que tu y as joué sur PC, toi aussi pas mal. Qu'est-ce que tu en penses de Destiny 2 Shadowkeep ?
Moi, je n'ai pas eu le temps du tout de finir. Je n'ai pas eu le temps d'énormément jouer depuis que c'est sorti. Mais du coup, j'avais pu tester un peu l'endgame quand j'étais invitée à Seattle. Et c'est pareil, en fait, Shadowkeep, pour l'instant, l'histoire, elle n'est pas très transcendante. Au début, c'est ultra excitant parce que c'est un mystère. Tu te retrouves dans une planète hantée. Mais en fait, tu te rends compte que ça tourne un petit peu en rond.
Et j'ai je un crois peu que tu décris Destiny là dans son ensemble. En
fait. Oui, j'ai un peu découvert les mauvais côtés des campagnes Destiny, donc notamment le côté couloir. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Ça fait très longtemps apparemment qu'ils disent qu'ils essayent de donner plus de liberté aux joueurs, mais ça reste quand même très couloir. Et mais je pense qu'en fait le mieux dans ce qui est sorti, c'est la nouvelle saison, dans le sens où il y a tout un nouveau contenu qui est censé être plus accessible pour les nouveaux joueurs. Et je ne sais pas si tu as fait Nouvelle Lumière, New Light.
C'est la partie free-to-play, effectivement. Ouais.
Oui, mais je ne sais pas si tu as fait tout le tuto du début.
Non, mais c'est le tuto du premier Destiny, en fait. Mais,
D'accord. Parce que j'ai commencé Destiny 2 quand il est passé en free-to-play avant Nouvelle Lumière. Et là, tu étais complètement jeté dans le truc sans que rien ne soit expliqué en fait, sur l'univers ni quoi que ce soit. C'était basiquement, il faut tuer des aliens et tu passes ton temps à réparer des choses, mais tu ne sais jamais vraiment à quoi ça mène. Alors que là, il te réexplique vraiment tout le lore, qui est un lore en plus ultra complexe. Moi, je ne m'étais pas rendu compte à quel point lore est développé sur Destiny. Enfin, ils ont vraiment un potentiel de fou, je pense, pour le rendre encore mieux à ce niveau-là. Et j'aime bien en fait ce qu'introduit Nouvelle Lumière. Et j'aime bien aussi le côté Battle Pass, qui fait que au moins les progressions de niveau, ça t'apporte des récompenses visibles.
C'est vrai.
Mais Shadowkeep, ça coûte quand même 35€, et je pense que ça... C'est un peu cher pour ce que c'est par rapport au temps de campagne, etc.
Ouais.
Et moi, j'ai pas le temps pour commit à fond et faire tout l'endgame et tout comprendre. Donc, c'est vrai que pour un joueur qui est plus casu, qui veut y passer peut-être 5-6 heures par semaine, c'est un peu compliqué, quoi.
C'est vrai, ouais. C'est un jeu qui est un lifestyle game, comme on dit. Moi, j'ai envie d'y jouer plus tout le temps. Hein. C'est l'un de mes jeux préférés. J'ai envie d'y jouer, mais ouais, c'est quelque chose qui demande un certain engagement pour en tirer la substantifique moelle. Mais bon, donc voilà. En gros, la conclusion de ces impressions, c'est Destiny 2, bah c'est Destiny 2, quoi. Voilà. mais c'est vrai qu'il y a plus de trucs accessibles. C'est un petit peu rationalisé. Il y a ce Battle Pass qui coûte un petit peu plus pour les saisons suivantes. Hein. Là, elle est inclue dans l'extension, mais pour les suivantes, ça vous coûtera un petit peu plus. Mais c'est pas trop mal organisé, c'est vrai, c'est rationalisé. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine quand ils auront vraiment une grosse extension à nous mettre entre les mains. Là, c'est un truc de transition.
C'est ça, j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que comme c'est un peu une transition, t'as l'impression qu'ils commencent un peu à tâtonner puisque comme ils sont séparés d'Activision, ils sont quand même dans une phase de restructuration et je trouve ça assez, assez cool.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels vous avez joué dont vous voulez nous parler ou pas ?
Non, moi j'attends juste avec impatience le nouveau Pokémon sur Switch.
Toi et quelques millions de personnes. Du coup, je peux vous parler de l'Oculus Quest que j'ai reçu suite à l'annonce de sa compatibilité avec la connexion PC qui arrivera en novembre. J'ai décidé de m'équiper et j'ai essayé l'Oculus Quest. Je vous avais parlé de l'Oculus Go et du PlayStation VR. En fait, l'Oculus Quest, je suis assez bluffé par la qualité du produit et par la qualité de l'expérience. Il y a vraiment un raffinement dans le savoir-faire qu'a Oculus, qui est hyper convaincant. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, l'Oculus Quest, c'est la version entièrement autonome, qui n'a aucun fil, dont tout le calcul se fait dans l'appareil, et qu'on pourra donc, en novembre, connecter au PC pour avoir les jeux de l'Oculus Rift, qui est, lui, la version connectée au PC. Donc, c'est un petit peu le meilleur de tous les mondes. On verra si ça marche concrètement. Mais déjà, les expériences de l'Oculus Quest... C'est tellement bien foutu. Et ce que je disais par rapport à l'Oculus Go, qui ne modèle pas vraiment les mains et qui ne nous laisse pas nous déplacer dans l'espace, c'est vraiment la VR, ça fonctionne quand on a ce sentiment de présence que donne la modélisation des mains et le fait de pouvoir se déplacer dans l'espace. Et là, l'Oculus Quest, c'est le meilleur de tous les mondes. Alors oui, les graphismes, ce n'est pas les graphismes les plus poussés que vous verrez en réalité virtuelle, mais ça fait le job. Et surtout, le fait de pouvoir se... voir ses mains, interagir avec les objets avec les mains, bouger la tête, avancer, reculer, c'est les moments waouh que j'avais eu avec le PlayStation VR qui étaient rares dans PlayStation VR. Là, c'était un petit peu tout le temps. Dans les quelques expériences qui sont proposées quand même, parce que ça reste le talon d'Achille du truc, il n'y a pas encore énormément de jeux de grande qualité ou même d'expériences de grande qualité. Ça va peut-être venir, mais ce que je veux dire, c'est que là, je sens qu'on arrive à un truc avec l'Oculus Quest. Le matériel est prêt, à voir si ça va se décliner en logiciel, mais le matériel et l'expérience sont bluffantes. Alors, ça fait cher, 450 euros pour cette expérience-là aujourd'hui. Je ne la recommanderais pas à des gens qui ne sont pas intéressés par la réalité virtuelle. Si vous êtes intéressé, je vous dirais, attendez de voir si ça se connecte effectivement au PC correctement et si vous pouvez avoir les expériences Rift aussi. Mais si c'est le cas, c'est un petit peu le truc que je recommanderais pour de vrai, pour la première fois en réalité virtuelle. Là, on arrive à un truc, quoi. Et c'est bluffant. Moi, ma femme l'a essayé hier. Je lui ai dit, allez, essaye, tu vas tester tel et tel truc et le jeu Vader Immortal, etc. Et elle souriait tout le temps, du début à la fin. Elle a joué peut-être, je ne sais pas, 20 minutes. Et au bout d'un moment, elle était en train de jouer dans le tutoriel et elle attrapait des petits cubes, les raquettes, elle tapait dans les ballons et elle ne pouvait pas s'arrêter et elle était en train de sourire tout le temps. Et je lui disais, mais tu sais, tu n'es pas obligé de continuer à jouer. Ce n'est pas forcément son truc. Elle disait, non, c'est bon, c'est marrant. Ce sentiment de présence, c'est unique. C'est unique, quoi. Et là, ça fonctionne super bien. Donc, bref, voilà, la réalité virtuelle, je pense, ne va pas disparaître de si tôt. GOG 2.0, j'ai eu accès à la bêta de GOG, Good Old Games Galaxy, GOG Galaxy 2.0. Je crois qu'il y a encore un NDA, donc je ne vais pas trop en dire. Je vais juste dire que ça marche super bien, ça vous fait un catalogue de tous vos jeux sur toutes les plateformes et c'est impressionnant. Moi, j'ai vu les 500 jeux que j'ai sur toutes les plateformes confondues, PlayStation, Steam, Ubisoft, Epic, Xbox, etc. Et on peut les filtrer. C'est enfin un catalogue de tout ce qu'on a, quoi. Donc, ça marche super bien. J'en dirai plus quand le NDA sera levé. Est-ce que vous jouez à Call of Duty sur mobile, Eva? Toi, tu aimes les jeux PC. Oui. Call of Duty sur mobile, ça va te parler, non?
Oui, j'y joue un petit peu.
Eh ben, tu sais quoi, j'étais sûr que t'allais me dire non, rien du tout, ces jeux, c'est des conneries sur mobile. D'une part, il a été téléchargé à 100 millions de fois en une semaine, d'après ses Sensor Tower, je crois. C'est le plus gros record. Et d'autre part, je suis hyper surpris, les réactions que j'ai vues de joueurs traditionnels, PC, console, machin, sont plutôt positifs. Je comprends pas dans quel monde on vit. Il est bien foutu, ce jeu?
Bah, c'est surtout que les jeux FPS mobiles sont enfin meilleurs qu'avant. Ils ont enfin trouvé une bonne façon de prendre en main les jeux en fait, sur mobile. Et sur Call of Duty, je trouve que c'est vraiment pas mal. En fait, tu peux vraiment customiser ton approche. Enfin, c'est pas ultra différent.
Tu veux dire, ou...
Oui, les contrôles. Après, c'est pas ultra différent PUBG mobile, je trouve. Et personnellement, je préfère quand même PUBG mobile. Mais je pense qu'il a quand même du potentiel et moi après je suis pas une fan de la licence, mais je pense que pour les fans de la licence, le fait d'avoir un jeu comme ça différent des autres entre guillemets, puisque t'en auras pas un chaque année, c'est free to play, etc., c'est super cool pour les fans de Call of Duty. Ouais. Il y a déjà beaucoup de contenu en vrai, même s'il y a aussi quelques bugs et c'est un jeu pas encore totalement fini, c'est quand même sorti avec pas mal de contenu.
Est-ce que c'est... D'une part, il y avait la possibilité de contrôler à la manette, ils l'ont viré très vite parce que je pense que le matchmaking n'est pas encore prévu pour. Est-ce que la monétisation est agressive sur le jeu ou est-ce que ça passe? C'est la grosse question, j'imagine, que se posent les gens.
Moi, je trouve que c'est un peu agressif, mais c'est un peu les normes sur les jeux mobiles, en fait.
Ouais,
bon, c'est-à-dire que t'as, comme sur PUBG Mobile, tu gagnes plein de trucs, plein de skins, tu sais même pas regarder à chaque fois parce que tu gagnes plein de challenges, plein de défis qui te poussent à en faire encore plus. Et on te propose souvent d'acheter des choses en plus, en fait. Donc, c'est un peu agressif, mais je pense que c'est difficile de passer à côté, en fait, sur le format mobile.
Mmh. Ouais, bon, en tout cas, ils ont pas cassé la formule, quoi.
C'est ça.
Parlons un petit peu de mon amour comics-o, cinématographique, jeux vidéo ludique, Marvel. Bien sûr, tout le monde adore les super-héros, n'est-ce pas? Vous deux aussi, vous adorez Marvel. Non.
Non.
Je me sens.
Moi, j'aime les anti-super-héros. Ah.
Donc, t'as aimé The Boys sur.
Exactement.
Ouais,
The
c'est
Boys,
très bien,
j'ai adoré.
Très, très bien, The Boys, c'est vrai. Je pensais pas parce que j'avais pas aimé le comics, mais oui, très, très bien la série. Claire, toi, t'es fan de super-héros,
non,
n'est-ce pas ?
Je suis pas du tout super-héros non plus, pas de chance.
Je me sens très seul. Eh bien, écoutez, je serai le seul à dire du bien de cette nouvelle présentation de Marvel's Avenger, le jeu qui sortira en mai et qui a eu une réception assez mitigé, on va dire, lors de sa présentation à l'E3. Là, ils ont présenté un nouveau personnage, Miss Marvel, Kamala Khan, qui est un des personnages hyper populaires de la nouvelle génération, on va dire. Ce que je voulais mentionner, c'est que c'est très intéressant, c'est le premier personnage qui n'a pas été incarné au cinéma ou même à la télé. Et du coup, la voir dans le jeu n'est pas aussi déroutant ou choquant que pour des personnages comme Tony Stark ou Steve Rogers, dont on a vu les acteurs et auxquels on les identifie. C'était l'un des reproches qu'on faisait au jeu lors de sa première présentation. C'était genre, on a l'impression qu'ils ont un petit peu pris les doubles lumières des acteurs pour faire les modèles des personnages en jeu. Moi, je disais oui, il y a un peu de ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont juste fait les personnages tels qu'ils les imaginent. Et là, avec Kamala Khan, elle est super bien foutue et elle est convaincante. Et je suis sûr que s'il y avait une actrice qui l'avait incarnée, eh bien, on se serait dit « Ah ouais, mais la même chose, elle ressemble un peu, machin. » Non, là, elle est super bien foutue. Donc, et ça m'a redonné un petit peu d'espoir pour le jeu, pour lequel je suis, on va dire, en mode attente, et on va voir. Mais là, je me dis, j'ai envie de tester ça, quoi. Donc, bon, j'aime Marvel, j'ai envie que ça soit bien. Et Iron Man VR va arriver en février sur PlayStation VR exclusivement. Là encore, tous les retours sont bons sur le jeu. C'est pas forcément évident parce qu'un jeu où on joue Iron Man en réalité virtuelle, c'est une proposition compliquée. Et ben là, les retours sont bons, donc à voir quand il sortira en février. Si on parle de février, on peut aussi parler de mars et du décalage de Doom Eternal qui a été décalé à mars 2020 au lieu de, je crois que c'était novembre. C'est un peu compliqué parce qu'ils ont en plus décalé des fonctionnalités qui étaient prévues pour le lancement. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de mal à le finir, mais en même temps, c'est bien qu'ils décalent pour qu'il soit aussi bien qu'il pourra être. Doom était l'un de mes jeux favoris en 2016, le reboot. Je suis certain que Doom Eternal sera très bon aussi. Moi, je l'attends avec impatience. Voilà, bon, c'est bien qu'il l'ait décalé, quoi, je pense. Quoi d'autre ? Vous êtes des joueuses de Red Dead Redemption 2 ou vous êtes comme moi, vous avez été, pas dégoûté, mais on va dire rebuté au bout de 30 heures de balade dans la forêt et de pickpocketage, de lootage qui prend 4 secondes à chaque fois. Toi, tu es plutôt sur PC, Eva, donc j'imagine que tu l'attends sur PC, du coup.
Et non, du coup.
c'est pas ton
truc. Mon type de jeu, pour le coup. Mais...
Novembre.
Après, il avait l'air d'être très bien fait, donc j'ai regardé des streams, mais je vais pas y jouer, non.
Ouais. Claire, c'est ton truc, toi ?
J'ai passé une dizaine d'heures dessus. Après, en fait, j'ai trouvé ça beau, sympa et tout, mais honnêtement, j'ai pas tellement de temps de me dire que je vais passer 130 heures sur le jeu.
Ouais.
Donc, je suis pas allée très très loin. Et le problème, c'est que si je me dis que je vais vraiment jouer à ce jeu-là, je vais y passer 130 heures. Et donc je choisis mes batailles. Ma prochaine bataille, ce sera le Monster Hunter, n'est-ce pas ?
Iceborne. Je sais que je vais passer.
Ouais, voilà.
Ouais, l'extension de Monster Hunter, elle arrive en novembre, je crois.
C'est imminent, là, non ?
Ah, je sais plus. C'est peut-être plus proche que ça, ouais. Moi, j'ai pas accroché à Monster Hunter, donc j'avoue que j'ai pas suivi Iceborne, mais il y a des gens qui l'attendent avec impatience aussi, ouais.
Et moi, j'aime les monstres, en fait.
Et sinon, ouais. C'est loin des super-héros, du coup.
Ouais, bon, ouais, voilà. Écoute, Hulk, il est quand même gros et vert et je sais pas quoi, mais non.
C'est un humain bizarre, mais c'est un humain, c'est pas
ouais,
un vrai
bon,
monstre.
Ok, d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, Red Dead Redemption 2 arrive donc en novembre sur PC. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va arriver aussi sur Steam, mais un mois après la sortie sur les autres plateformes. Les autres plateformes étant l'Epic Game Store, je crois, ou pas Good Old Games, peut-être pas, parce que ça, c'est sans DRM, je ne sais plus. Mais il va aussi arriver sur le launcher de Rockstar. Donc ça, c'est ce qu'on attendait, ce n'est pas si surprenant. Et sur ce launcher, si vous le précommandez, vous avez aussi d'autres jeux en cadeau. Donc, ah oui, c'est sur le Humble Store qui va arriver. Epic Game Store, Green Man Gaming, Humble Store, GameStop et d'autres... numérique et sur Stadia en novembre aussi. Et donc, comme je le disais, chez Steam, au bout d'un mois, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, la part de revenus que prend Valve sur Steam a dû jouer dans cette décision de Rockstar, on s'en doute. Dernier sujet que je voulais couvrir, c'est des chiffres du NPD, l'organisme qui traque les ventes de jeux vidéo aux États-Unis, qui couvre le top 10 des plus grosses ventes sur PlayStation 4 et Xbox One sur, depuis le lancement des consoles. Ils ont divisé en deux catégories. D'une part, les exclusivités uniquement, et d'autre part, les ventes avec tous les jeux confondus, même les multiplateformes. Ce qui m'a vraiment choqué sur la partie multiplateforme, je vais parler de la partie exclusive uniquement. Sur la partie exclusive, c'est marrant parce qu'on voit du côté Xbox, il y a Halo, Forza, Gears, Forza, et c'est des suites. C'est quasiment que des suites. Sur PlayStation 4, il y a des suites aussi, bien sûr, mais il y a le Spider-Man de Marvel. Bon, ça, c'est une IP qui existait. God of War, OK, c'est peut-être une IP qui existait aussi, mais c'est une réinvention du truc. Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, pas surprenant. Bloodborne, Days Gone, Infamous Second Son. Il y a quand même plus de variété, on va dire. Et bon, ça ne fait que confirmer, je pense, le fait que Microsoft a besoin de plus de jeux exclusifs. Et on le dit depuis des mois, ils ont commencé à mettre les choses en place pour avoir ça avec tous les studios qu'ils ont rachetés. Donc, ce n'est pas hyper surprenant à ce niveau-là. Un truc un petit peu plus surprenant, si je vous pose la question, vous connaissez bien l'industrie, à votre avis, quels sont les jeux les plus vendus, si on parle de jeux multiplateformes aussi, sur PlayStation 4 et Xbox One? Peut-être que je vais poser la question à Claire. Le titre qui revient le plus souvent, c'est quoi, à ton avis?
Je pense que c'est un Call of, non?
Eh bien, écoute, pile dans le mille, bien joué. En première place, il y a bien sûr Grand Theft Auto 5 qui ne s'arrête pas sur les deux consoles. Mais après, on a sur PlayStation 4, Red Dead Redemption 2, OK. Call of Duty, dont Black Ops 4, qui est celui de l'année dernière. Hein. Il est en quatrième position déjà. Spider-Man, Call of Duty Infinite Warfare sur Xbox One. Donc, parmi les 10 premiers, il y en a genre 5 de Call of Duty. Sur Xbox One, Grand Theft Auto, bien sûr, Call of Duty World War 2, Black Ops 3, Black Ops 4, Red Dead Redemption 2, Infinite Warfare, et on a même en 9e position sur Xbox One, Advanced Warfare. On a tellement l'impression que Call of Duty, ouais, c'est du passé, les jeux sont pas bien, tout le monde s'en fout, machin. C'est incroyable de voir que même le jeu de l'année dernière, Call of Duty Black Ops 4, est en super haute position, en quatrième position sur les chiffres de vente. C'est l'argent généré, donc ça inclut les promotions et tout ça au prix des promotions. L'argent généré par les titres. Alors, ça inclut peut-être pas toutes les ventes numériques parce que le NPD a un programme de reporting de ventes numériques auquel tous les acteurs ne sont pas intégrés, mais il n'empêche, c'est l'essentiel des ventes. Et Call of Duty, ça reste, malgré tout, un énorme morceau de la vente de jeux vidéo. J'ai l'impression qu'on a souvent, nous, une vision biaisée de tout ça, de notre perchoir de gamer hardcore, et qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'est le vrai monde des vrais gamers. Je ne sais pas, Eva, si toi, c'est quelque chose qui que tu vois dans ton quotidien de journaliste de jeux vidéo, mais j'ai l'impression qu'on est, nous, un petit peu déconnectés des réalités du grand marché du jeu vidéo, quoi.
Oui, il y a un décalage complet, je trouve. Par exemple, FIFA, c'est un jeu super populaire en France et pourtant tout le monde dit que ça va mourir, etc. Enfin, dans ma communauté, forcément. Mais du coup, ça n'a rien à voir en fait quand on voit les chiffres.
Ouais.
Au final, on représente une petite partie de la communauté.
C'est ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme, je sais pas, il y a quelques films ou quelques artistes qui font 90% des ventes. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil. C'est Call of Duty, c'est les jeux de sport. Bon, en l'occurrence, surtout Call of Duty. Mais après, je pense que c'est plus segmenté. Les Call of Duty, ils se vendent dans le monde entier. Les autres jeux, c'est genre FIFA se vend en Europe, Madden se vend aux États-Unis, et ce genre de trucs. Mais...
J'ai été surprise qu'il n'y ait pas les Assassins, qu'il y ait zéro Assassin, ouais, par exemple, dans le top 10.
C'est vrai, ouais. Assassin's Creed, il n'y est pas du tout, pas un seul. C'est surprenant.
Alors que quand le Odyssey, là, c'est quand même un gros succès commercial. Et du coup, je ne sais pas quelle est la proportion, à quel point c'est en dessous par rapport à ce top 10. Et d'un point de vue strictement personnel, je trouve ça hyper triste que ce soit... c'est un type de jeu majoritairement avec une licence qui écrase tout le reste. Je trouve que c'est d'une tristesse.
C'est un peu triste, ouais. Bon, faut avouer que c'est les chiffres aux États-Unis aussi, hein. Donc c'est pas les chiffres dans le monde entier. Ouais. Ils aiment bien les FPS, clairement. Donc ça serait peut-être un peu différent si on avait les chiffres du monde entier. Mais oui, c'est sûr. Je pense pas que Call of Duty disparaisse tout à coup du top 4 si on inclut les chiffres du reste du monde, quoi. Ça, c'est certain, mais. Bon, et puis il y a pas tous les free to play.
Mais il y a pas les Battle Royale, enfin.
C'est ça, ouais. Il n'y a pas les free-to-play, il n'y a pas les... qui ne sont pas inclus. Là, c'est les ventes de jeux. Donc, il faut nuancer un peu tout ça, mais quand même. Bon, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. On pourrait parler de Mario Kart qui a maintenant un pack à 40€ pour avoir des gemmes, de Mario Kart Tour sur mobile pour avoir des gemmes et un personnage, je crois que c'est Diddy Kong ou un truc comme ça. Y aurait plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais je crois qu'on va se diriger très gentiment vers la sortie après cette épuisante partie sur Blizzard et Hong Kong. J'aimerais vous remercier toutes les deux d'avoir été présentes dans l'émission. Avant de se quitter, peut-être que je peux vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Eva, est-ce que tu as ton compte Twitter et puis ce que tu fais?
Oui, c'est ça. Moi, c'est Twitter de toute façon à 90%. Donc, vu que je suis sur plusieurs médias, c'est plus pratique.
Je mettrai le lien vers Salty Swan, qui est ton compte Twitter. Je le mettrai dans les notes de l'émission. Claire, je mettrai ton lien Twitter dans les notes de l'émission également. Ouais. C'est la même chose pour toi?
Oui, plutôt Twitter.
Super, pas de souci. Oui, et on a un swan en français, un cygne, voilà, signe. Merci. On a un cygne d'un côté et un escargot de l'autre. Moi, personnellement, j'aime bien les deux animaux. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. C'est très bien. Parce que, accessoirement, l'escargot, il est atomique. Hein. Donc,
Exactement, ouais.
Bon, j'avoue que là, je perds.
Bon, merci à toutes les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, je vous invite à suivre le Twitter et mes réseaux sociaux. Il risque de se passer des choses pour l'émission la semaine prochaine, des choses intéressantes, j'espère. Donc, je fais un petit teasing. La semaine prochaine, j'espère, se passer des choses. Donc, Twitter, Facebook et Instagram, c'est Note Patrick. Vous pouvez bien sûr aller commenter sur frenchspin.fr, comme je le disais, commentaire toujours poli et respectueux, s'il vous plaît, évidemment. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et puis, voilà, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et on se donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Je vous fais de grosses bises. Ciao, ciao.